RCF. Christianisme et islam, regard mutuel et enjeu d'avenir, tel était le titre d'une conférence proposée par le Crédit 29 Culture et Religion en dialogue. Et nous allons parler de cette réalité avec Michel Younès, qui est professeur à l'Université catholique de Lyon, où il dirige le Centre des cultures et des religions et le collège doctoral, et il est aussi le coordinateur général de la plateforme plurielle. Peut-être pour commencer, Michel Younès, est-ce que vous voulez nous dire ce qu'est ce Centre d'études des cultures et des religions de la Catho de Lyon ?
Bonjour, je suis heureux d'être avec vous. Le Centre d'études des cultures et des religions, c'est un centre de recherche et d'enseignement qui est abrité par l'Université catholique de Lyon, la faculté de théologie, où on propose un certain nombre de cours sur les religions d'une façon globale. Ça concerne le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et l'islam, mais ça permet aussi, ça abrite un certain nombre de programmes de recherche. Il y a une équipe qui travaille depuis une douzaine d'années, quinzaine d'années maintenant, et elle a produit un certain nombre d'ouvrages sur, par exemple, l'islam en France, l'islam en Europe, le fondamentalisme islamique. Alors c'est vrai qu'elle est plus orientée vers la question de l'islam, cette équipe-là, ou encore des notions comme le dialogue islamo-chrétien, les expériences mystiques, voilà, donc ça vous donne une idée de l'étendue. Maintenant, il est vrai aussi que ce centre d'études des cultures et des religions, il s'est ouvert aux problématiques de la société, et depuis une douzaine d'années, il coordonne les travaux d'un séminaire un peu particulier composé d'acteurs d'entreprise et d'universitaires sur la gestion de la diversité culturelle et religieuse dans les organismes et les entreprises.
Pourquoi c'est important que la Catho de Lyon ait un lieu justement où on va regarder, prendre son temps pour connaître les autres religions, islam, bouddhisme, judaïsme, etc.
C'est vrai qu'au début, on peut croire que c'est une forme d'ouverture, et c'est bon de le considérer ainsi, mais ce qu'il faut voir de plus près, c'est qu'au sein de la faculté de théologie, qui assure une formation théologique pour des séminaristes religieux, religieuses, des laïcs engagés, la compréhension de la foi chrétienne nécessite désormais un questionnement sur la place des autres traditions religieuses. Donc vous voyez, et surtout depuis le Concile Vatican II, on considère que cette réflexion-là n'est pas une option. Elle est nécessaire, surtout que dans le contexte actuel, on parle de la mondialisation, l'ouverture, la diversité, la pluralité sur un même endroit géographique des religions, ben on est confronté à cette diversité-là. Donc il faut comprendre les racines des religions, mais aussi il faut réaliser comment on peut vivre ensemble dans un contexte pluriel.
Justement, puisque vous utilisez cette expression de contexte pluriel, vous êtes aussi le coordinateur général de la plateforme plurielle, une plateforme internationale. Est-ce que vous voulez nous dire de quoi il s'agit ?
Alors, le mot pluriel, ça reprend une plateforme universitaire de recherche sur l'islam en Europe et au Liban qui a été initiée au départ par la Fédération des universités catholiques en Europe et au Liban. Et quand on m'a confié le projet, c'est pour coordonner les enseignants qui travaillent dans ces institutions-là et qui parfois se trouvent isolés. Et petit à petit, la plateforme s'est élargie. Donc actuellement, on a plus de 175 chercheurs intégrés à cette plateforme dans des universités catholiques et au-delà, dans des institutions d'État. Ça peut être aux États-Unis, au Canada, en Europe, dans toutes ces dimensions, et puis au Moyen-Orient. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est en mettant ensemble des chercheurs avec leur propre discipline. Ça peut être une discipline théologique, sociologique, politique, historique, juridique. C'est croiser nos regards pour aborder la question de l'islam en lui-même, c'est ce qu'on appelle l'islamologie, mais aussi dans le rapport à la société également dans le rapport à d'autres traditions religieuses. Et la volonté, c'est vrai que c'est devenu pluriel, c'est pour comprendre aussi l'islam dans sa pluralité. D'ailleurs, le premier congrès que nous avons fait à Lyon, c'était en 2016, il s'intitulait « Islam au pluriel ». Le deuxième, c'était à Rome, et c'était sur « Islam et appartenance » au pluriel. Et puis le troisième, qui a été repoussé à cause du Covid et qui aura lieu en mai de cette année à Beyrouth, porte sur « Islam et altérité ».
Sur RCF Rencontre avec Michel Younes, et nous allons parler avec lui christianisme et islam. Christianisme et islam, regard mutuel. Alors pourquoi c'est important d'interroger nos regards sur le christianisme et sur l'islam? Quels sont les enjeux en fait du questionnement à avoir entre les deux religions?
Vous savez, depuis une cinquantaine d'années, si je prends une date repère pour l'Église catholique, je dirais depuis le Concile Vatican II notamment, donc les années 60, s'est développée une volonté d'être en dialogue. Depuis la lettre encyclique de Paul VI, Ecclesiam Suam, qui appelle l'Église à être dans une démarche de conversation avec le monde, cette dimension du dialogue est devenue véritablement un axe majeur du rapport entre l'Église catholique avec le monde, avec la société, avec les différentes traditions religieuses. Et si je prends une autre date repère, depuis les années 90, il y a eu un développement, donc la chute du mur de Berlin, l'ouverture du monde, un développement de cette notion du dialogue. On parle beaucoup le dialogue interreligieux, le dialogue des cultures, et maintenant on parle du vivre ensemble. L'idée, c'est quoi ici? L'idée, c'est de dire que parler du dialogue, c'est important de vivre ensemble, mais si on veut véritablement l'asseoir, il faut interroger les regards mutuels, parce que toute religion, quelle qu'elle soit, a développé dans sa trajectoire historique des perceptions de l'autre, que ce soit lié à l'histoire, lié à sa théologie, lié aussi parfois à des phénomènes sociopolitiques, mais on trouve qu'il y a une perception de l'autre. Et parfois, cette perception, elle est négative. Donc, il est inutile ou il est, il est dérisoire de parler du dialogue si on n'interroge pas ces questions-là, ces perceptions-là, pour examiner d'abord d'où elles viennent, comment on les fonde, comment on les justifie. Est-ce qu'elle totalise le regard ou est-ce qu'elle a laissé la place à d'autres perceptions positives? Donc, et c'est ce qui va permettre de passer d'une forme de préjugé, d'une perception négative, en l'interpellant, à voir comment fonder un regard positif. Donc dans cette approche, j'essaierai de démontrer comment concrètement, à partir des textes, il est indispensable d'interroger ces regards mutuels pour fonder le vivre ensemble. Donc il y a un enjeu majeur, et comme on le voit aujourd'hui, cet enjeu devient vital pour les sociétés marquées par la pluralité.
Peut-être que c'est intéressant pour que nos auditeurs comprennent bien que on s'arrête à l'aspect négatif, perception négative que vous avez évoquée, d'où elles viennent, comment elles se fondent. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples?
Je vais donner quelques exemples des deux traditions que j'ai examinées de plus près, le christianisme et l'islam, mais je dirais que ça ne s'arrête pas là. Moi, mon objectif, c'est de puiser aussi dans les perceptions positives. Néanmoins, vous avez raison de le mentionner, ce sont les perceptions négatives qui peuvent bloquer dans le rapport à l'autre, dans le rapport au dialogue. Prenons un exemple typique des deux traditions. Quand le christianisme, au 8e siècle, a vu arriver la réalité de l'islam, alors après on peut aller plus finement dans l'approche historique, mais prenons d'une façon globale, Jean Damascène au 8e siècle, quand il a rencontré l'islam dans la cour califale de Damas, comment il va le décrire, et ça va marquer par la suite des générations de théologiens, de penseurs chrétiens d'abord en Orient puis en Occident, on va qualifier l'islam d'hérésie chrétienne. Alors j'essaie d'analyser ce que porte ce regard quand je considère l'autre comme une hérésie, comme une forme de déviance. Et donc, du coup, les conséquences sur le dialogue. Comment voulez-vous dialoguer avec quelqu'un que vous considérez comme étant déjà dans l'erreur, déjà déviant? Vous voyez, donc c'est ça que j'interpelle. Maintenant, un autre exemple du côté musulman, ce que j'interpelle, un regard négatif, puisque là, on est dans la tradition scripturaire, c'est-à-dire le Coran et la tradition prophétique, ce qui n'est pas le cas du christianisme, l'islam venant 6 siècles après la Bible chrétienne, on trouve des notions comme, par exemple, le terme d'associationniste, qui est une forme de critique, une forme de polythéisme. Quand des versets coraniques, des versets de la tradition prophétique ou des penseurs musulmans par la suite vont utiliser ce terme, voyez bien comment ça peut bloquer la rencontre. Quand je dis de quelqu'un qu'il est polythéiste, donc je ne reconnais pas, y compris sa propre conception de foi comme étant monothéiste, et sachant que le terme de polythéiste est un péché grave dans la théologie musulmane, vous voyez comment ça ne peut pas conduire à une rencontre. En revanche, j'essaie de voir comment il y a eu aussi des notions plutôt positives, et ces conceptions positives peuvent être mobilisées pour un regard constructif.
Justement, est-ce que vous voulez nous donner des exemples maintenant de perceptions positives?
Alors, un autre exemple du côté de la pensée chrétienne, c'est le rattachement à la figure abrahamique. Depuis les années 60, il y a eu tout un développement d'un certain nombre de penseurs chrétiens. Pour ne pas le citer exclusivement, je nommerai Louis Massignon, qui a beaucoup influencé la pensée chrétienne vis-à-vis de l'islam et qui va finir par parler de l'islam comme une ramification abrahamique. Pourquoi en soi ça peut être perçu positivement? Parce qu'on n'est pas dans l'exclusion a priori. Donc, à partir de là, on peut voir, comme dans une famille, les points de différence et les points de ressemblance. Si je prends du côté de l'islam, un des points qui peut être une base pour un regard positif, c'est la notion coranique « les gens du livre ». Alors, en référence à un livre. Après, j'interroge ce qu'elle peut permettre et puis la manière de l'interpréter. Ce qu'il faut savoir à chaque fois, c'est comment je vais interpréter les notions. Parce qu'il peut y avoir un glissement dans l'histoire. Et ça renvoie à la responsabilité des chrétiens et des musulmans, comment ils vont mobiliser les notions et comment ils vont finir par les interpréter. Parce qu'il y a des interprétations qui peuvent glisser à nouveau dans une approche négative, comme il peut y avoir une interprétation pouvant aller dans une dynamique positive. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de théologiens chrétiens ou musulmans en Europe ou au Moyen-Orient, qui cherchent à dépasser ces regards positifs. Je vous donne un seul exemple. Il y a tout un groupe qui s'appelle « Croyants sans frontières » et qui rassemble des musulmans et des chrétiens. L'idée, c'est quoi de ces penseurs musulmans et bien sûr chrétiens qui se retrouvent? C'est de dire « Je considère l'autre comme déjà dans son statut de croyant et non pas de mécréant ». Alors que la notion de mécréant liée à l'associationnisme polythéisme, comme je vous l'avais dit, elle est péjorative. Donc il y a des points, des leviers qu'il va falloir activer pour que la dynamique de la rencontre soit bénéfique.
Est-ce qu'on peut pas dire aussi de manière un peu simple ou peut-être simpliste que pour la plupart des gens, la difficulté, si on va se placer d'abord du côté des chrétiens, c'est une méconnaissance en fait de l'islam qui paraît un univers complexe avec des courants différents, les chiites, les sunnites, enfin etc. etc. Et donc en fait c'est cette méconnaissance qui empêche finalement d'entrer en dialogue pour la plupart des gens, en fait, faut bien le dire.
Alors, vous avez raison de souligner la place de la méconnaissance, mais moi je parlerai d'une double méconnaissance. Il y a une méconnaissance du côté des chrétiens, notamment en Europe, de la réalité de l'islam, surtout tel qu'il est arrivé, avec les vagues migratoires. Donc du coup, forcément, c'est lié à des caractéristiques qui ne permettent pas forcément d'entrer dans une forme de connaissance positive. Mais il y a une forme de méconnaissance des musulmans vis-à-vis des chrétiens. Et donc du coup, il faut travailler sur cette double méconnaissance. Alors, le fait est que l'islam, comme toute réalité religieuse, il est complexe. Et en effet, il ne suffit pas de lire quelques textes rapides, hein. Il faut véritablement entrer dans une connaissance profonde pour comprendre cette complexité. Comme toute réalité, il est complexe, mais il est aussi complexe de par sa structure. Et il est vrai qu'un des pièges, là je voudrais le souligner par rapport à nos auditeurs, un des pièges, c'est qu'on peut observer l'islam à travers ses lunettes de catholique, je précise catholique, c'est-à-dire une communauté structurée, hiérarchique. Et on peut s'attendre à ce qu'on voit du côté de la communauté musulmane une forme de structure avec un référentiel, un magistère, presque un pape ou l'équivalent d'un évêque ou l'équivalent d'un prêtre. Il n'en est rien, surtout dans l'islam sunnite, qui est l'islam majoritaire en France, ben, qui n'a pas la même structure. Ne pas connaître et comprendre le fonctionnement propre peut conduire à des erreurs. D'où l'importance d'une connaissance qui prend en compte la spécificité de cette tradition dans ses multiples facettes. Et là, je voudrais rajouter un point supplémentaire. C'est que, au fond, l'islam, il faut pas l'oublier, c'est un terme, je dirais, chapeau, qu'on utilise pour des réalités multiples. Je viens de le dire, il n'y a pas de structure hiérarchique, notamment dans l'islam sunnite. Ce qui signifie que très souvent, l'islam que je vais percevoir, c'est l'islam que je rencontre à travers mon interlocuteur. Et parfois, plus j'ai d'interlocuteurs, plus j'ai d'islam. Si je rencontre un interlocuteur, je dirais, qui est dans une démarche spirituelle mystique, ben je vais percevoir l'islam à travers cette démarche mystique. Si j'ai une perception, si j'ai un interlocuteur d'un musulman qui est, je dirais, politisé, ben forcément, je vais percevoir l'islam comme une forme politique, et ainsi de suite. Et comme il n'y a pas de magistère régulateur, il n'y a pas une autorité qui va dire qu'est-ce qui relève de l'islam ou pas, ben forcément, on est devant cette pluralité. Le piège, c'est de concevoir, à travers l'une des rencontres, l'islam comme une totalité.
Christianisme et islam, regard mutuel et enjeux d'avenir, c'est à cette question que nous continuons de réfléchir avec Michel Younes. Il est professeur à l'Université catholique de Lyon où il dirige le Centre d'études des cultures et des religions. Il faut accepter en fait la diversité des portes d'entrée. On pourrait comprendre ce que vous dites, prendre un peu par analogie ce qui se passe au niveau du dialogue entre les chrétiens et de l'œcuménisme. C'est-à-dire que suivant la porte d'entrée par laquelle je passe, mon rapport aux autres chrétiens va être différent. Parce que je vais faire l'expérience d'une rencontre, mettons, si je suis catholique avec des protestants ou avec des orthodoxes, une rencontre concrète, on va aller sur le terrain agir par exemple pour de la solidarité. Et c'est pas la même chose que si j'ai une approche, mettons, du protestantisme ou de l'orthodoxie à partir du dialogue théologique, etc. On voit que voilà, les portes d'entrée sont importantes d'une certaine manière.
Alors c'est une bonne analogie avec l'écuménisme. C'est une bonne analogie pour deux raisons. La première, c'est que en effet, la réflexion chrétienne du dialogue depuis les années 90 a montré qu'il y a au moins quatre niveaux, si ce n'est plus, de dialogue: le dialogue de vie, le dialogue des œuvres, le dialogue théologique et le dialogue d'une démarche spirituelle. Et suivant cette porte d'entrée, je peux avoir un rapport différent. Mais c'est une bonne analogie pour une autre raison. C'est que si vous prenez, par exemple, le protestantisme, la fédération protestante, ben vous avez une pluralité de groupes et d'églises. Et donc, du coup, l'église catholique ou le catholique a compris qu'il ne peut pas projeter sur la réalité protestante ce qu'il a, lui, dans son paramètre, je dirais, catholique. Donc, ça apprend à prendre du recul et à comprendre l'autre, je dirais, tel qu'il est, pas tel que je me le représente.
Pourquoi c'est si important, finalement, de continuer de questionner ce qui est à la racine de nos deux religions, que ce soit l'islam ou le christianisme, pour avancer dans le dialogue? En quoi c'est important d'aller chercher à la racine, en fait?
Alors, c'est une bonne question. Pourquoi aller chercher à la racine et ne pas se contenter de ce qu'il y a aujourd'hui et puis vivre dans l'actualité? Je dirais pour deux raisons principales. La première, c'est que parfois l'actualité peut être trompeuse. C'est qu'elle peut être liée à des réalités politiques, économiques, sociologiques, et donc ne pas prendre en compte ce qui, à travers l'histoire, a conduit soit à des ouvertures, soit à des blocages. Mais la deuxième raison, qui me paraît encore plus fondamentale, c'est que l'émergence d'une religion dans l'histoire, à n'importe quelle époque, l'a conduit à porter un regard sur celles qui l'ont précédée. Et donc, du coup, l'islam, quand il est arrivé dans l'histoire, il a porté un regard et une parole. Et parfois, cette parole, ce regard, et parfois les conditions historiques ont conduit, ont chargé les mémoires collectives. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de relecture de la mémoire, ben on reste parfois bloqué avec des schémas d'une autre époque. Donc paradoxalement, il faut revenir à ces sources, les interpeller, soit pour éclairer des notions parce qu'on a complètement oublié comment c'était à l'époque et on a transposé des compréhensions, soit pour aussi regarder ben, les points positifs qui ont pu avoir lieu par-delà les schémas négatifs.
Et peut-être regarder aussi ce qui peut être partagé et puis les différences un peu irréductibles qui subsistent entre les religions et les accepter.
Ben, quelque part, dans la démarche de la rencontre, on est passé d'une volonté de chercher ce qui est commun pour dire ben, quand on a du commun, on peut s'entendre. Finalement, une démarche qui a ses propres limites. À une approche du dialogue qui dit, bon, il y a des différences irréductibles, il ne faut pas chercher uniquement le commun, il faut chercher à transformer le regard sur la différence et ces différences irréductibles. Parce que du moment où je comprends l'autre dans ses différences et il me comprend dans mes différences, ben, on a un autre regard, un regard plus apaisé, plus serein, qui ne fait pas de la différence une opposition à l'autre, mais qui fait de la différence un potentiel enrichissement. Je peux voir comment mon voisin vit différent de moi, mais qui peut me conduire à m'interpeller et à m'enrichir de sa différence, et pas forcément en voulant l'imiter. Donc ni imitation, ni opposition. Mais ça nécessite une éducation, un apprentissage, une manière de regarder la différence.
Et aussi peut-être une volonté pour davantage de personnes d'entrer en dialogue, dans un vrai dialogue, de prendre le temps de se connaître, de s'entendre, de s'expliquer, de s'écouter. Voilà, parce que ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que l'enjeu après cette phase qui est sans doute à vivre, à expérimenter, c'est aussi la question du vivre ensemble qu'il y a derrière.
Vous savez, pour dialoguer, il faut être deux. Sinon, c'est un monologue. Mais pour dialoguer à deux, il faut susciter chez soi et chez l'autre l'envie du dialogue. Et ça commence en effet par la rencontre. Le pape François, dans sa dernière encyclique Fratelli Tutti, il a développé un certain nombre d'éléments que je trouve vraiment important par rapport à cette notion du dialogue. Regardez par exemple le paragraphe 198 où il dit, dans sa définition du dialogue, je le reprends presque mot à mot en disant, c'est se rencontrer, échanger, avoir des points de contact. C'est ça le dialogue finalement, c'est ces premiers pas dans la volonté de s'ouvrir. Et dans cette volonté d'ouverture, ben, il y a un apprentissage qui permet, dans le vivre ensemble, d'apprendre un autre langage que la volonté d'exclure ou de rejeter ou d'avoir un regard négatif pour dire que je suis bien. Parce que le réflexe habituel, c'est pour que je vous dise que je suis bon, ben je suis tenté de dire que mon voisin est méchant. Regardez, il est méchant, je suis bon. Cette logique-là est à transformer. Je peux dire que je suis bon, que j'ai des éléments enrichissants, sans forcément dire du mal de mon voisin. C'est ça l'idée. Et le pape François termine en disant, pour ceux qui considèrent que le dialogue est inutile, imaginons un monde où il n'y a pas de dialogue. Par quoi va-t-on le remplacer ?
Et peut-être que ce qu'il y a derrière, pour prolonger ce que vous dites, on pourrait répondre, on va le remplacer finalement par la peur les uns des autres. Et c'est ça la réalité quelque part qui se vit dans notre société.
Et c'est ça le problème. Et ça, c'est à tous les niveaux. Ça peut être au niveau sociétal, au niveau politique, au niveau interreligieux. Et c'est là où il y a une responsabilité des personnes qui adhèrent à des convictions religieuses. C'est d'œuvrer pour que la notion du dialogue soit cette aptitude, cette manière d'être qu'on va conjuguer à tous les niveaux pour œuvrer pour un monde meilleur. Au fond, on le voit dans notre actualité. La rupture du dialogue signifie l'expansion de la guerre. Et si on œuvre pas dans une logique de dialogue, eh ben on exclut ou bien on retire au monde une occasion de paix.
Michel Younès, merci beaucoup. Si on veut aller plus loin, je donne le titre d'un ouvrage que vous avez fait paraître aux éditions du Cerf Patrimoine, « Les approches chrétiennes de l'islam, tensions, déplacements et enjeux ».